et pas forcément dans le sens où on y pense.
Oui, voilà.
Ah, alors,
dire si ça fonctionne.
Ça va? Oui, ça marche. Alors, est-ce que vous avez pris la feuille qui est très dense aujourd'hui? Alors, ce que je n'ai pas fait, est-ce que vous pouvez m'apporter une feuille? Parce que je ne l'ai pas imprimée.
Ah!
J'ai tapé, mais je n'ai pas imprimé. Alors, d'habitude, je prends le dernier cours pour faire une séance de questions plus ou moins bâton rouge. Et là, je me suis dit que ce serait intéressant de le faire plutôt l'avant-dernier cours. Comme ça, quand je ferai le cours de conclusion, de synthèse, je pourrais également intégrer éventuellement cette discussion. Du coup, je vous propose que la semaine prochaine, on prenne du temps pour discuter, réfléchir, voir vos questions, parce que je me rends compte que ça va très très vite le cours, et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour vos questions. Et que c'est dommage. Voilà. Alors, simplement, je vous ai mis mon mail, histoire que si vous avez des questions, d'abord, ça me donne une idée pour que s'il y a des questions sur lesquelles j'ai besoin de faire de la recherche, je puisse la faire. Et ensuite, ça permettra un départ de discussion. Bon, si les questions ne sont pas parvenues par mail et que vous voulez les poser, on les prendra dans la mesure du temps disponible. Voilà. Mais donc c'est bien, moi ça m'aide à préparer, à voir où sont vos interrogations principales. Après ça, je pense que c'est bien qu'on ait fait le cours d'aujourd'hui avant ces questions, parce que je me suis aperçue à l'usage qu'il y a beaucoup de questions qui concernent ces questions de... J'ai mis un titre, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est pris dans l'épître aux Éphésiens, hein, c'est pas de moi. Et ça, c'est bien écrit, c'est bien écrit, c'est bien dit. Mais en pratique, il y a plein d'églises chrétiennes différentes. Et c'est pas toujours très sympa. Et donc, l'expérience m'a également appris que c'est un lieu où il y a beaucoup de questions. Dans le cours sur l'Église, toutes ces questions de différentes façons de croire que Jésus-Christ est l'unique sauveur. Alors, on est clair, ici, on ne parle que de chrétiens, c'est-à-dire que de gens qui pensent que Jésus-Christ est Dieu, qui s'est incarné pour nous sauver, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et qu'il nous a apporté le salut. Donc, c'est l'option du cours d'aujourd'hui. On avait déjà fait, il y a longtemps, un cours sur le monde pluriel et où on avait pris en compte la pluralité des religions et l'athéisme et l'indifférence religieuse. Hein. Donc, c'est déjà un pas vers l'unité des chrétiens que de reconnaître que ceux-là sont nos frères dans la foi. Et que nous partageons cette même foi. Donc, c'est un pas actif. Bon, je vous ai mis un plan, un petit préambule qui va nous permettre de faire un tout petit bilan historique, voir après qui sont ces chrétiens, et puis après, on va poser les questions qui nous sépare en matière d'ecclésiologie. Quand je vais parler un peu des chrétiens, je poserai quelques autres questions doctrinal. Et après, eh bien, j'essaierai de faire un bilan plus ou moins réussi des efforts œcuméniques. Alors, les gens qui parlent d'œcuménisme aiment beaucoup se référer à ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus, c'est-à-dire ce texte au chapitre 17 de Saint Jean, où Jésus, après... Alors, chapitre 17 de Saint Jean, après le lavement des pieds, Saint Jean, c'est au chapitre 13, le lavement des pieds, il y a un grand discours à ses disciples. Et puis après ce discours, le chapitre 17, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, la prière de Jésus. C'est une grande prière de Jésus. Et puis après, on va rentrer dans la passion, le départ vers Gethsémani, etc. Et au chapitre 17, dans cette grande prière, Jésus prie pour l'unité. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous, nous sommes un. Nous, c'est le Père et le Fils. Donc, on est dans une prière qui est déjà trinitaire. Il a parlé, Jésus a parlé, le chapitre d'avant, du fameux paraclet, de l'Esprit qui va venir sur ses disciples. Donc, on est dans ce tournant où Jésus a compris ce qu'il allait lui appeler, et Jésus transmet cette idée que l'unité, c'est vraiment l'enjeu qui va rendre ou non crédible la foi. Donc le premier enjeu d'avoir des chrétiens un, c'est bien cet enjeu d'obéir, de partager, enfin, d'obéir à notre Seigneur qui nous a sauvés par sa mort, sa résurrection. Après, j'ai listé des tas d'enjeux qui sont un petit peu plus... Enfin, qui se déclinent à partir de celui-là. J'ai mis en premier les enjeux missionnaires parce que c'est vrai que quand on prétend annoncer Jésus-Christ au monde et que si on commence à l'annoncer et que les gens à qui on parle ont eu la semaine précédente une rencontre avec des chrétiens évangéliques, ils vont se dire « Ah oui, mais c'est lesquels qui ont le vrai Jésus-Christ ?» Voilà. Et ça, c'est vrai dans le porte-à-porte sur les marchés qui, en Occident, et c'était vrai au 19e dans les petits villages de Birmanie. Donc, de Birmanie d'ailleurs, hein. Je vous dis ça comme ça. Donc, l'enjeu missionnaire, le signe que donnent les chrétiens, ce serait, est quand même extrêmement négatif, si ce qu'on étale sur la place publique, c'est non pas notre foi commune, mais nos divisions. Après, on a des enjeux ecclésiaux, donc qui seraient peut-être plus internes à nous-mêmes. Ben, on aimerait bien agir en commun. On aimerait bien prier ensemble, se former ensemble, faire le CIF ensemble, ce serait bien. Hein. On aimerait bien, alors là, ce serait le Graal, partager la même Eucharistie. Bon, j'ai mis les enjeux personnels, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des personnes parmi les chrétiens qui sont touchés au cœur d'eux-mêmes. Je parle des couples qui partagent la même foi chrétienne, mais ne sont pas issus de la même Église. Et donc, pour ces couples-là, c'est une grande épreuve. Actuellement, je dirais que contrairement à ce qui se passait il y a 60 ou 70 ans, on les autorise à ce mariage dans les deux églises, on célèbre en grande pompe une célébration œcuménique, mais dans les fêtes, au bout de quelques années de mariage, ils n'ont guère le choix que de choisir l'une ou l'autre des deux églises. En particulier, autant chacun peut garder sa confession, autant c'est extrêmement difficile d'élever des enfants d'un côté ou de l'autre. Voilà. Ensuite, et vous voyez, c'est pas pour rien que je les ai mis en dernier, c'est un choix qui m'est peut-être personnel, mais il me semble important de relativiser les différences doctrinales. Elles existent. Mais... Non, c'est pas moi qui siffle.
Non,
c'est derrière, excusez-moi. Elles existent, mais si on n'avait pas plein d'autres choses qui coincent, on réglerait ces questions-là. C'est une option personnelle. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Mais enfin, vous voyez, il y a beaucoup d'enjeux dans cette question de la séparation entre églises. Alors, avant d'aller dans les détails de comment on perçoit les choses, je vous propose de faire un petit parcours historique des divisions. J'aurais bien aimé pouvoir dire que l'histoire avait amené son lot de divisions, mais que depuis le début du XXe, on était dans une dynamique inverse. J'aurais bien aimé. Donc, j'ai mis quelques phases, c'est bien sûr très rapide. J'ai mis à partir du Ve siècle ce qu'on a appelé les hérésies et les schismes de l'Église ancienne. Tant que l'Église était ultra-minoritaire, qu'il n'y avait que quelques chrétiens dans l'Empire, la question du « vous êtes en communion, vous n'êtes pas en communion » se réglait, entre guillemets, assez facilement. Si vous n'êtes pas en communion avec l'évêque qui lui-même essaie d'être en communion avec les autres évêques, vous allez voir ailleurs. Enfin, je suis un petit peu caricaturale, mais on est dans une église très minoritaire. L'unité est l'enjeu numéro un. D'ailleurs, il n'y a pas de différence, ça c'était avant le 4e, 5e siècle, entre la notion d'hérésie et la notion de schisme. C'est-à-dire que on est unis parce qu'on croit la même chose. Et les questions de discipline, c'est-à-dire de façon de vivre, sont renvoyées aux églises locales. On a un échange de correspondance, il me semble que c'est entre Augustin et de ses fidèles, un de ses fidèles qui s'est exilé à Rome et qui écrit à son évêque en disant « on ne célèbre pas Pâques le même jour, on ne jeûne pas on a les mêmes jours, on n'a pas les mêmes façons de célébrer » et Augustin de répondre « à Rome, faites comme font les Romains ». C'est-à-dire que dans l'Église ancienne, l'important, c'est l'unité de la foi. Les façons de le vivre, et les façons de le vivre, c'est finalement l'organisation interne de l'Église, les ministères. On a tous des presbytres, mais qu'est-ce que font les presbytres? Qu'est-ce que font les diacres? On a des diaconesses, mais c'est peut-être pas du tout la même chose d'une Église à l'autre. Tout ça, c'est un détail. L'important, c'est la même foi en Jésus-Christ. Et donc, il y a à la fois une très profonde unité dans l'Église qui est à la fois indivise et très minoritaire, et à la fois une grande diversité. Diversité qui est d'autant plus grande qu'on n'a pas la même langue, puisque, en gros, dans l'Église qui est implantée dans l'Empire romain, on va avoir, dans la partie occidentale, des gens qui utilisent le latin, et dans la partie orientale, des gens qui utilisent le grec. Voire, au-delà, vers l'est, des gens qui utilisent le syriaque, des langues orientales, sémitiques. Au IVe siècle, avec le concile de Nicée et celui de Constantinople, puis au 5e siècle, alors Nicée 325, Constantinople 385, on écrit le credo, qui, à l'exception de la fameuse phrase du filioque, il procède du Père et du Fils, est fixé à ce moment-là. Credo de Nicée 325, confirmé à Constantinople. À partir de ce moment-là, on essaie d'avoir des précisions. Donc là, avec le credo de Nicée, on a dit que Jésus-Christ avait été vrai Dieu, vrai homme. On a confirmé la nature divine du Christ. Et qui est consacré au concile d'Éphèse. Alors le concile d'Éphèse, il réaffirme que Marie est ce qu'on appelle Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu. En disant que Marie est mère de Dieu, on dit Jésus est un homme, puisqu'il sort d'une ventre d'une femme, du ventre d'une femme, et Jésus est Dieu, puisqu'elle est mère de Dieu. Donc, vous voyez, on fait un espèce de raccourci poétique pour affirmer la double nature du Christ. Et puis, au concile de Chalcédoine, on va un petit peu préciser comment s'articulent les deux natures, comment le Jésus terrestre a une volonté divine, une volonté terrestre, etc., ce qui va faire couler beaucoup d'encre chez les dogmaticiens. On va avoir, à ce moment-là, déjà des hérésies et des schismes. Des gens, des églises, qui vont rester ce qu'on appelle nestoriennes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas recevoir le concile d'Éphèse, ou pré-chalcédoniennes, c'est-à-dire celles qui passent entre Éphèse et Chalcédoine. J'ai mis les dates des conciles. Quand on regarde d'un peu plus près, ce sont des églises qui, en fait, sont hors empire. L'Éthiopie, la Perse, et qui, quelque part, s'affranchissent des églises de l'Empire romain. De même, on ne le dit pas trop maintenant, mais vous savez qu'avant Nicée et Constantinople, il y a eu la fameuse hérésie d'Arius, qui niait la divinité du Christ, mais qui était déjà dans l'idée qu'il était quand même mort et ressuscité pour nous sauver, et que la plupart de ceux qu'on a appelés les barbares, qui ont après occupé l'Empire romain vers l'ouest, étaient déjà des Ariens. C'est-à-dire que la foi centrale de Nicée-Constantinople, elle s'était un peu installée en terre d'Empire, alors que les formes, disons, un petit peu latérales du christianisme concernaient les chrétiens, enfin ceux qui étaient touchés par ce salut en Jésus-Christ, mais qui n'était pas au cœur de l'Empire romain. Donc on voit déjà que la question théologique est certes importante, mais ces braves évêques de Perse, par exemple, c'est pas qu'on ne les avait pas invités au concile d'Éphèse, c'est qu'on n'a pas attendu qu'ils arrivent pour commencer, faire les discussions, signer, et quand ils sont arrivés, on leur a dit « vous signez, vous tamponnez, ou à peu près ». Dans cet état ou à Chalcédoine. Bref, en fait, on s'aperçoit que les questions dogmatiques sont là, sont discutées, mais que les questions de préséance, de primauté, on dirait aujourd'hui de leadership sur l'Église, sont également essentielles dans ces ruptures du 5e siècle et suivant. Entre le 5e et le 11e siècle, eh bien, entre l'Église latine, celle de Rome, et les églises d'Orient grec, c'est-à-dire celle, en gros, de Constantinople, on parle toujours de cet estrangement en anglais, mais c'est aussi le mot latin, estrangement, c'est-à-dire que on s'éloigne progressivement l'un de l'autre. On se rapproche, on s'éloigne, mais de plus en plus, on ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes questions, on n'a pas les mêmes préoccupations. D'un côté, vous avez l'Église latine dans un empire dévasté où le pape de Rome va prendre une importance de plus en plus grande de leadership sur l'Occident en l'absence d'unité politique, en l'absence de... En l'absence de pensée de l'unité du monde occidental. N'oublions pas que c'est le pape Grégoire le Grand qui accueillera et qui négociera la paix à Rome, parce qu'il n'y a plus, les politiques ont déserté Rome quand les barbares, je ne sais plus quel était, rentrent dans Rome. Au contraire, en Orient, jusqu'en 1453, on a un empire qui tient la route, des empereurs qui collaborent tellement avec le patriarche que parfois ils se croient eux-mêmes responsables de l'Église et que dans les discussions entre le pape de Rome et le patriarche de Constantinople, qui des fois dégénère beaucoup, eh bien, je peux discuter avec le patriarche, mais à condition qu'il soit un leader ecclésial et pas quelqu'un au service de l'empereur. Et donc c'est très très compliqué. Entre le 5e siècle et, je dirais, le concile de Florence, c'est 1438, hein, où on est obligé de dire, bon, la rupture est définitive, il n'y aura plus, ça y est, c'est fait. On a une série d'excommunications réciproques, et puis on se re-reconnaît à nouveau comme étant frère et en intercommunion, simplement n'ayant pas la même langue, ayant une diversité de rites, etc. Puis on se réenvoie en 1153, il y a une série d'anathèmes et d'excommunications très violentes. Bon. Mais on passe un petit peu, finalement, 4 à 5 siècles à ce petit jeu de se réconcilier, rerompre, se réconcilier. Mais chaque fois, on s'éloigne de plus en plus parce que les questions qu'on agite sont radicalement différentes. La querelle iconoclaste, par exemple, qui enflamme l'Orient. A-t-on le droit d'utiliser ou non des icônes ? Et qui oppose en fait l'empereur, on ne représente pas Dieu, donc pas d'icône, et plutôt la partie ministère, les évêques, qui eux pensent que l'icône a une réelle valeur liturgique, c'est une querelle dans laquelle Rome va soutenir les évêques, mais qui n'effleure pas du tout l'Église d'Occident. Le sens sacré de l'icône, ça ne vient même pas à l'idée de l'occidental. Savoir si c'est un enjeu théologique ou pas. Oui. Donc, on devient des étrangers l'un à l'autre. Estrangement, ça dit bien ça. On devient des étrangers l'un à l'autre. Pour mémoire, je vous ai rappelé le grand schisme d'Occident, qui entre 1378 et 1417, ben on a 2, 3, je crois qu'on est même allé jusqu'à 4 papes. On s'est rabiboché à l'intérieur de l'Église d'Occident avec le pape Martin. Ça ne veut pas dire que les graves questions qui étaient derrière, comme la question de l'épiscopat, du conciliarisme, dont je vous ai dit que le Concile Vatican II s'était enfin préoccupé de la résoudre, la question de la sacramentalité de l'épiscopat, était réglée. Et il y avait d'autres questions qui étaient latentes. Et donc l'Occident, là, le grande rupture en Occident, eh bien, c'est le XVIe siècle. J'ai mis la réforme, j'aurais pu mettre les réformes. Donc, au XVIe siècle, vous savez qu'on a célébré en grande pompe, il y a 2 ans, l'anniversaire de la réforme, donnant la date de 1516, où Luther affiche ses thèses sur la porte de l'Église. Il s'agit à l'origine, pour les grands réformateurs, Calvin, Luther en premier, Calvin, Zwingli, en particulier Mélenchon, Mélenchon, excusez-moi, je mélange, ça se ressent tellement, que je mélange. Il s'agit non pas de rupture dans leur tête, mais de réformer l'Église, de l'interroger sur des pratiques qui sont quand même vraiment des pratiques dont aujourd'hui on n'est pas fier, soyons clairs. Donc c'est beaucoup plus des églises qui interrogent le fonctionnement de l'Église, des théologiens qui interrogent le fonctionnement de l'Église, et entraînés dans un contexte géopolitique important, en particulier la soif des princes allemands de s'affranchir de l'autorité de Rome pour être leurs propres patrons dans leur pays. Quand je dis allemand, qu'est-ce que fait Henri VIII en Angleterre? Ils vont surfer sur cette vague pour créer leurs propres églises réformées dans leur territoire et ne plus dépendre de l'autorité morale de Rome. Donc vous avez à la fois une querelle théologique, doctrinale, pastorale essentielle, avec des questions graves, mais qui aurait dû se résoudre dans le cadre de chrétiens de bonne volonté qui partagent la même foi. Mais vous avez un fond politique qui, lui, crée les conditions du schisme. Vous voyez ? Alors, la réforme, quand je vous parle d'église luthérienne, tout le monde sait qui est le leader. Les églises réformées, je mets entre parenthèses presbytériennes, c'est une forme ecclésiale dans laquelle on reviendra, mais disons que le grand leader, c'est Calvin, le grand théoricien de l'Église, sur ça. Dès le début, la réforme, les églises issues de la réforme, éclatent en plein d'églises. Au XVIIe, ça va être des églises congrégationalistes, baptistes. Au XVIIIe, jusqu'au XXIe siècle, on va avoir foisonnement d'églises. J'utilise très souvent, parce que c'est un terme technique qui n'existe qu'en anglais, et encore en anglais états-unien, le terme de « denomination », qui désigne des églises chrétiennes différentes issues de la réforme. Et elles sont très nombreuses. J'ai lu quelque part qu'elles étaient peut-être de l'ordre de 50 000. Je n'ai aucun moyen de le vérifier. En revanche, j'ai lu une thèse sur le ministère, les conditions du ministère, écrite par un pasteur protestant, une pasteur protestante, qui a interrogé des ministres de plusieurs églises. En France, elle en a trouvé 47. A interrogé, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 47 en France. Elle a interrogé des ministres, des pasteurs, plus des prêtres catholiques, de 47 églises différentes, donc 46 protestantes. Donc vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans ces églises, certaines ne comportaient qu'une assemblée, c'est-à-dire c'est un pasteur, une église. Des églises donc indépendantes, entre guillemets. Ça existe. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le protestantisme. Alors, j'ai mis les anglicans également sur le même plan. C'est la même époque, c'est pas tout à fait le même type de rupture. Je dirais que là, la rupture... les discussions au début, celles qui auraient dû résoudre les problèmes, qui auraient dû se résoudre par une discussion entre gens de bonne volonté, ce qui n'est pas fait, et qui ont pris un tour politique, étaient à l'origine assez doctrinales, théologiques et pastorales, alors que dans la rupture anglicane, soyons clairs, le politique était au premier rang. L'église méthodiste, qui est une église extrêmement nombreuses aux États-Unis, pas qu'aux États-Unis, mais très nombreuses aux États-Unis, est une rupture, c'est un groupe qui s'est détaché au XVIIIe de l'Église anglicane. Et ben, j'ai rajouté, par rapport à la diapositive que j'avais écrite l'année dernière, la dernière ligne, j'ai mis 21e siècle, rupture au sein de l'orthodoxie. J'ai laissé un point d'interrogation. La rupture date officiellement de 2 mois. Les excommunications réciproques donc, ne datent que de 2 mois. Est-ce que c'est un accident, dire que le problème est politique, c'est évident, puisque vous savez d'où il vient. Constantinople, qui est... Donc, les églises orthodoxes, c'est un ensemble d'églises qu'on appelle autocéphales, c'est-à-dire qui ont chacune leur tête et qui, normalement, sont en communion les unes avec les autres. Constantinople a reconnu à l'église orthodoxe ukrainienne l'autocéphalie. Or, bien sûr, jusque-là, l'église ukrainienne dépendait du patriarcat de Moscou. Donc, dans le contexte actuel de guerre en Ukraine, savoir si l'église orthodoxe d'Ukraine est autocéphale en communion avec Constantinople ou dépendante de Moscou, vous pensez bien que la question est hautement théologique. Donc, voilà. Alors, est-ce que... Ça, je laisse un point d'interrogation. Cette rupture est conjoncturelle. Elle se résoudra quand la crise politique, la crise des personnes, parce que c'est aussi une crise entre le patriarche Kirill de Moscou et le patriarche Bartholoméo de Constantinople, ce sera éteinte, ou est-ce qu'elle doit perdurer? La question de la primauté au sein de l'orthodoxie entre Constantinople et Moscou date du début du XVIe. Parce que quand Constantinople est tombée sous les Turcs, Moscou a dit Constantinople c'était la deuxième Rome et Moscou devient la troisième Rome. Donc c'est très très compliqué. On va... Oui ?
Vous n'évoquez pas dans les ruptures du 21e siècle, enfin du 20e même.
Oui.
Comment s'appelle Monseigneur Lefebvre ?
Alors, effectivement, au 20e, j'aurai 2 questions à poser qui sont plutôt dans le sens des ruptures. Au sein de l'Église catholique, la rupture avec Monseigneur Lefebvre et les intégristes, dont j'ignore aujourd'hui si c'est un petit groupuscule qui va s'étioler, ou si ça va donner lieu à quelque chose qui va perdurer. Vous avez une deuxième rupture qui est également grave, au sein de ce qu'on appelle les épiscopaliens ou les anglicans. Épiscopalien, c'est un des termes qu'on utilise pour l'église anglicane, pour éviter de dire quel mot anglais, donc hors Angleterre. Il y a eu une rupture entre les évêchés qui reconnaissaient l'ordination à l'épiscopat des femmes, parce qu'après, au sein de chaque diocèse, il y a des diocèses qui ordonnent des femmes et d'autres qui ne le font pas. Mais si on ordonne des femmes évêques, ça signifie que c'est la communion anglicane qui reconnaît l'ordination des femmes. Là, il y a eu également une rupture. Je vais juste en parler dans la diapositive suivante. Celle-là.
Est-ce que c'est la haute église que vous appelez l'église épiscopalienne ? On parle de haute église chez les anglicans.
Je ne peux pas vous dire. Il faudrait que je cherche. C'est une question. Voilà. Je ne peux pas vous dire. L'église épiscopalienne, c'est l'église états-unienne en communion avec les anglicans. C'est le terme qu'ils utilisent aux États-Unis. Voilà. Et on reviendra sur le pourquoi. C'est lié au fait que les anglicans ont gardé la structure d'église avec des évêchés. Et donc avec un primat, l'archevêque de Canterbury. Alors que, au contraire, les églises réformées ont une structure dite presbytérienne, c'est-à-dire des collèges d'anciens. On reviendra sur ça à la fin de ce cours. C'est une des graves questions ecclésiologiques qui nous séparent. La haute église, il faudrait que je cherche, malheureusement.
Parce qu'il y a des célébrations, c'est un copier-coller avec le.
Absolument, mais de toute façon, donc moi je me rappelle très bien, c'était le lendemain du vote sur le Brexit, je me trouvais en Angleterre ce jour-là, on est allé à la messe dans une petite ville d'Angleterre, on ne savait pas trop où on était, on a vu une église, on a vu messe à telle heure. J'ai compris que je n'étais pas dans une église catholique parce qu'un des prêtres qui ont célébré était une femme. Mais sinon, c'était copié-collé.
Ah oui.
Les mêmes ornements, les mêmes lectures du jour que celles que j'avais dans mon missel, la même structure de l'Eucharistie, la même prière eucharistique. Hein, donc, c'est la même.
Hein. Et l'Église catholique romaine reconnaît la liturgie. Enfin, je veux dire, vous avez vraiment communié ou pas
alors? Alors, je crois que là, je vais répondre joker. Parce que la réponse d'Ambrigini ne peut pas être la même que celle du professeur en charge par l'Église catholique. Ouais. Voilà. Et je vous répondrai dans une des dernières infos, si je n'ai pas eu le temps d'y répondre, on le reprend la semaine prochaine, sur la question de fond qu'il y a sur cette question de l'intercommunion. Parce que c'est une question lié à la conception de l'Église et à sa position par rapport au royaume. Voilà. Alors, maintenant que j'ai vu ces forces centrifuges qui font... Donc, je suis allée un peu en grand trait, mais je vous ai dit, forces centrifuges, au sein de l'Église catholique, avec les mouvements anti-intégristes, au sein de l'Église anglicane, au sein des églises orthodoxes, ben vous avez ce qu'on appelle le mouvement œcuménique. Le mouvement œcuménique, en fait, naît vraiment dans le protestantisme. L'Église catholique est persuadée, elle l'enseigne jusqu'au Concile Vatican II, on le verra un petit peu dans les textes, elle est la société parfaite, elle est l'unique église de Dieu. D'ailleurs, Jésus a confié à Pierre les clés, donc c'est « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Donc, elle est l'église légitime. Les églises protestantes se reconnaissent entre elles légitimité pour être l'église. Bon, bien sûr, on est mieux que les autres, mais elles sont... Et dès le milieu du 19e, elles se posent un peu la question de leur unité. Mais on a l'habitude de dire que le mouvement œcuménique est né à la Conférence universelle des missions à Édimbourg en 1910. Vous avez là, le 19e siècle a été un siècle formidablement missionnaire. C'est un siècle où on a où les Occidentaux ont exploré le monde entier, un siècle où ils ont découvert des vastes populations en Asie, en Afrique, qui n'avaient jamais rencontré le Christ, et que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, ils ont tous eu le désir d'annoncer Jésus-Christ. Et ils se sont retrouvés, tout à l'heure, c'est pas un hasard si j'ai pris l'exemple de la Birmanie, ils se sont retrouvés sur le terrain entre baptistes, luthériens, anglicans, catholiques, etc., à sillonner les forêts, les montagnes, les villages, tout ce que vous voulez, savanes en Afrique, et à annoncer Jésus-Christ, et à dire « Non, c'est moi qui est le vrai, et le missionnaire qui est passé avant moi, c'était pas le bon. » Alors, à cette conférence des missions, qui rassemblait des tas de missionnaires des mouvances protestantes, mais de plein d'églises protestantes, ils se sont dit, là, on fait du mauvais travail. Il ne faut quand même pas qu'on exporte nos divisions. Et je vous ai mis les mots d'un chrétien coréen qui était à ce congrès d'Edimbourg. Donc un chrétien coréen protestant. Vous nous avez envoyé des missionnaires qui nous ont fait connaître Jésus-Christ et nous vous en remercions. Mais vous nous avez apporté aussi vos distinctions. Prêchez l'Évangile et laissez Jésus-Christ susciter lui-même du sein de nos peuples, par action de son esprit, l'Église conforme à ses exigences. C'est très intéressant que ce soit un chrétien coréen. La Corée est un grand pays chrétien, puisqu'il y a 35% de chrétiens en Corée du Sud, entre catholiques et protestants. Mais c'est un pays qui n'a jamais été colonisé par les Occidentaux. Donc il y a une distinction totale entre le colonisateur et les missionnaires. Ils ont accueilli Jésus-Christ, ils n'ont pas eu un colonisateur qui est arrivé avec des missionnaires dans ses bagages. Hein. Donc, voilà. Alors, 1910, on dit que c'est le moment où la machine se met en route. Je vous ai mis ensuite l'organisation formelle de ce qu'on appelle à Genève le Conseil œcuménique des Églises, enfin c'est le siège qui est à Genève, en 48. Et il est porté sur les fonts baptismaux, ce Conseil œcuménique des Églises, au congrès d'Amsterdam en 1948. Entre 1910 et 1948, les travaux ont pris du retard, peut-être pas du fait du mouvement œcuménique. Là, vous avez quand même deux guerres mondiales entre les deux. Il y a eu un peu des problèmes. Mais on a eu, en particulier entre les deux guerres mondiales, un moment entre les deux guerres mondiales d'une richesse théologique et œcuménique très très importante. Beaucoup, beaucoup d'agitation, etc. Enfin, d'agitation au sens positif. Hein. On s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de type pastoral, et des problèmes de type dogmatique théologique. Et c'est entre les deux guerres mondiales que se fait jour, entre autres, le groupe qu'on appelle Foi et Constitution, qui existe encore, qui est plutôt un groupe doctrinal de dialogue entre églises. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Conseil œcuménique des Églises ? C'est un lieu de rencontre, de discussion, qui n'a pas d'autorité, qui n'est un lieu que consultatif, entre des églises membres. Au début, vous avez des églises protestantes occidentales, essentiellement des protestantes traditionnelles, classiques, luthériens, anglicans, etc. Très vite, actuellement on est toujours à peu près dans ces chiffres, on a plus de 300 églises de tradition protestante, anglicane et orthodoxe. Les orthodoxes ont rejoint assez vite le Conseil œcuménique des Églises, qui se réunissent pour discuter. Et c'est dans les années 60 que se joignent à ces églises des églises du Sud, autonomes, et à l'époque on avait ce thème, et des églises orthodoxes. Alors, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font de la recherche théologique et pratique pastorale pour travailler à l'unité. Elles travaillent ensemble à la mission, elles s'aident, elles font de la lutte pour la justice, etc. L'Église catholique romaine n'en est pas membre, mais elle en est partenaire. On verra un petit peu plus loin la nuance. Et par contre, l'Église catholique romaine fait officiellement partie du groupe Foi et Constitution qui discute de questions doctrinales de façon officielle. Donc, une initiative protestante qui s'étend. Après, quand même une limite. Je vous ai parlé de 50 000 denominations et je vous parle de 300 églises au Conseil œcuménique des Églises. Après, je vous ai dit que dans les fameuses églises protestantes, certaines n'avaient une assemblée, un pasteur. Donc, celles qui ne sont pas là, ce sont surtout celles-là. Les grandes, elles sont à Genève. D'accord ? Une autorité morale certaine. C'est-à-dire que quand, c'était il y a longtemps à l'échelle, mais j'ai pu se souvenir, quand les églises d'Afrique du Sud étaient des églises raciales, c'est-à-dire qu'il y avait des églises blanches qui refusaient qu'il y ait des noirs qui tendent l'apartheid, le Conseil œcuménique des églises a exclu les églises raciales. C'est un poids important, un poids moral important. Vous voyez ? Donc, on est là. Alors maintenant, et c'est là que je vous ai mis une prose très longue. Quelle était la position de notre bonne vieille Église catholique romaine face à ce mouvement œcuménique ? Avant Vatican II, il n'y a qu'une seule position. L'unité ne peut se faire que par le terme et explicite retour au bercail. C'est-à-dire, vous revenez dans le giron de l'Église romaine. Ça peut être à titre individuel. Je suis chrétien protestant, je suis chrétien anglican, je reviens à Rome. C'est le cas, par exemple, du cardinal Newman à la fin du 19e, une grande figure de la réflexion et de la théologie de l'Église, qui était un anglican, qui par chance n'était pas marié, donc il est revenu dans l'Église romaine, comme il n'était pas marié, il a pu rester prêtre, évêque, cardinal. C'est le cas également d'églises entières qui sont revenues à Rome. Alors, cette théologie du retour au bercail, vous l'avez dans les deux encycliques que je vous ai mises, celle de Pie XI et celle de Pie XII. Vous voyez Pie XI dans l'encyclique Mortalium Animos en 1928, qui écrit « D'aucuns nourrissent l'espoir qu'on pourrait facilement amener les peuples, en dépit de leurs dissidences religieuses, à s'unir dans la profession de certaines doctrines admises comme fondement commun de vie spirituelle. » Vous voyez comment il parle du mouvement œcuménique. « En conséquence, ils tiennent des congrès, des réunions. » J'ai sauté quelques lignes. « Il est vrai, quand il s'agit de favoriser l'unité entre tous les chrétiens, certains esprits sont trop facilement séduits par une apparence de bien. » Et alors, tout en bas, « On comprend donc, vénérable frère, pourquoi ce siège apostolique n'a jamais autorisé ses fidèles à prendre part au congrès des non-catholiques. Il n'est pas permis, en effet, de procurer la réunion des chrétiens autrement qu'en poussant au retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ, puisqu'ils ont eu jadis le malheur de s'en séparer. » Alors, le ton de Pie XII en 43, dans les dernières lignes de ce que je vous ai mis, qu'ils entrent donc dans l'unité catholique et que réunis avec nous, le nous avec une majuscule, c'est le pluriel de majesté pour moi le pape, hein, dans le seul organisme du corps de Jésus-Christ, ils accourent tous vers le chef unique. Nous les attendons les bras ouverts, comme des hommes qui se présentent à la porte, non d'une maison étrangère, mais de leur maison paternelle. Donc vous voyez le ton vis-à-vis des chrétiens non catholiques avant le Concile Vatican II. Vous avez vu que Pie XI officiellement interdit à tout catholique d'assister à toutes ces réunions d'efforts œcuméniques. Donc les quelques catholiques qui y vont sont clandestins. Donc inutile de dire qu'ils ne peuvent pas être clairs. Il y en a quelques-uns, hein, quand même, mais...
Pie XII est un peu plus sympa, quand même.
Quoi ?
Pie XII est un peu plus sympa.
28-43. 28-43. Absolument. Ben quand même, on s'adoucit.
Oui, on s'ouvre.
On s'ouvre. Alors, le concile. N'oublions pas que jusque-là, jusqu'au concile, l'Église est une société parfaite. C'est la seule, Pie XII quand même, il a bien dit que il était la seule Église du Christ. Hein. La seule véritable Église. C'est quand même l'enseignement officiel. Hein. C'est l'encyclique Mystici Corporis. Donc, c'est une encyclique. Ça, on dit Mystici Corporis, ça veut dire corps mystique. Hein. Il définit l'Église dans cette encyclique. Il l'a définie quand même avec distance vis-à-vis du politique. Il est en 43. Pie XII, c'est pas l'affreux collaborationniste avec le nazisme qui est parfois décrit, c'est quelqu'un qui se pose la question de la juste distance de l'Église avec le politique. Bon, le Concile Vatican II. Je vous ai mis le paragraphe 8 de Lumen Gentium. Et qui est le dernier paragraphe, vous en rappelez pas, sur qui parle du mystère de l'Église avant de partir les du peuple de Dieu et de sa hiérarchie. Et donc, les quelques lignes dans ce paragraphe, excusez-moi, juste avant les crochets. Vous voyez, l'Église terrestre et l'Église enrichie des biens célestes ne doivent pas être considérées comme deux choses. Elles constituent au contraire une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. Donc cette double nature de l'Église, humaine et divine. Il va parler dans les crochets d'une analogie avec Jésus-Christ. Et un petit peu plus bas, cette Église comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle subsiste, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques. J'attire votre attention sur ce mot que j'ai mis en gras, c'est moi qui l'ai mis en gras, ce n'est pas les évêques, elle subsiste. Il y a eu des discussions pendant des mois, pour savoir si les évêques allaient écrire que l'Église catholique, qui est bien sûr l'Église catholique romaine dans leur tête, est l'Église, au sens théologique du terme, ou non. Et qu'est-ce qu'ils disent ? L'Église subsiste dans l'Église catholique. Vous voyez ? Ça veut dire que dans l'Église catholique, il y a quelque chose de cette Église au sens théologique. Après, est-ce que pour autant elle est superposable à l'Église, l'Église catholique ? On laisse la porte ouverte. Et je peux vous dire que des thèses et des ouvrages de théologie pour disserter sur le sens de ce terme subsistent. Il y en a pour un moment avant que vous les ayez tous lus.
Tenter qu'on s'y aventure.
C'est une des graves questions. Il y a des gens qui soutiennent que ça voulait dire être. Il y en a d'autres qui disent non, c'est justement pour différencier l'Église au sens théologique du corps social de l'Église catholique romaine. Je ne sais pas si les gens arriveront à s'entendre vraiment. Toujours est-il qu'il y a une porte qui s'ouvre là. Vous avez après un autre texte qui n'est pas une constitution dogmatique, donc qui est moins importante sur le plan de la hiérarchie que du même Gentium, c'est le décret sur l'œcuménisme. Au début, promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens est l'un des principaux objectifs du Saint Concile œcuménique de Vatican II. Une seule et unique Église a été fondée par le Christ Seigneur, et pourtant, plusieurs communions chrétiennes se présentent aux hommes comme le véritable héritage de Jésus-Christ. Vous voyez que là, il parle de communion chrétienne, il n'accuse pas les autres de ne pas être chrétien. Je vais aller plus loin. Troisième paragraphe. Deuxième paragraphe, excusez-moi. Or, le maître des cieux, des siècles, qui poursuit son dessein de grâce avec sagesse et patience à l'égard des pécheurs que nous sommes, a commencé en ces derniers temps de répandre plus abondamment sur les chrétiens divisés entre eux l'esprit de repentance et le désir de l'union. Vous voyez qu'entre ces gens qui tiennent des congrès et l'esprit qui souffle dans ceux qui ont le désir de l'union, dont on sait fort bien que ce sont des protestants, on a changé de ton. Très nettement. C'est important. Avant, c'était des gens qui tiennent des congrès. Au début du paragraphe 3, dans cette seule et unique Église de Dieu sont apparues dès l'origine certaines scissions. Au cours des siècles suivants, naquirent des dissensions plus graves et des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique, parfois par la faute des personnes de l'une ou de l'autre partie. Équilibre. Ceux qui naissent aujourd'hui dans de telles communautés et qui vivent de la foi au Christ ne peuvent être accusés du péché de division. Alors, je saute encore des lignes, je passe à la page suivante. Au troisième paragraphe, en haut de la page 3. En conséquence, ces églises et communautés séparées, bien que nous croyons qu'elles souffrent de déficience, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit des chrétiens séparés ? Elles souffrent de déficience. Donc on garde quand même notre certitude qu'on est les seuls bons. Mais elles ne sont pas dépourvues de valeur. Ensuite, j'attire votre attention sur le terme « ces églises et communautés séparées ». À un autre endroit, on parle de communauté église et communauté ecclésiale. On a là, les commentateurs assurent qu'il y a là une différence en ce sens que l'Église catholique romaine reconnaît le terme « église » pour les orthodoxes, mais pas pour les protestants, sachant que la situation des anglicans n'est pas très claire. Et donc, on va parler de communauté ecclésiale. Le magistère n'emploie jamais le terme « église » d'enseignement pour les protestants, alors qu'il l'emploie pour les orthodoxes. En revanche, le cardinal Casper, qui a été préfet de la congrégation pour l'unité des chrétiens, et qui était vraiment quelqu'un d'extrêmement important, qui est toujours vivant, il a dépassé l'âge fatidique de 80 ans, a toujours utilisé le terme église pour les protestants. C'est pourquoi je pense que j'ai le droit de le faire et que ça me semble plus juste. Alors, quand on continue, vous voyez, entre Pie XII, Pie XI, avec ces gens qui tiennent des congrès, Pie XII, qui dit qu'il n'y a qu'un seul lieu, c'est qu'ils reviennent dans l'église, qu'on les accueillera, ouvert, mais qu'il n'y a qu'une seule véritable église, et Vatican II, bon, continue à penser que les autres sont déficients, mais qui veut bien quand même leur reconnaître qu'ils ont beaucoup de qualités, y compris la qualité numéro un, c'est que c'était aux protestants que l'esprit a suggéré qu'il fallait faire un effort vers l'unité. Il y il y a déjà un pas énorme. Alors après, soit je suis optimiste et je vais parler de ce qui va bien, ce qui va plutôt dans le sens de l'accueil de l'autre. Donc l'encyclique de Jean-Paul II sur l'engagement œcuménique, qui s'appelle « Ut unum sint » en bas à la page 3. Et je vais vous parler, vous faire remarquer ce qu'il dit au début de la page 4. Au tout début, quatrième ligne de la page 4. Au-delà des divergences doctrinales à surmonter, les chrétiens ne peuvent pas sous-estimer le poids des atavismes et de l'incompréhension qu'ils ont hérité du passé, des malentendus et des préjugés des uns à l'égard des autres. Bien souvent, l'inertie, l'indifférence et l'insuffisance de la connaissance mutuelle aggravent cette situation. Pour cette raison, l'engagement œcuménique doit être fondé sur la conversion des cœurs et sur la prière, qui conduiront aussi à la nécessaire purification de la mémoire historique. Donc, Jean-Paul II. J'ai mis en petit deux textes qui, au contraire, ont sonné comme un recul de l'engagement œcuménique. La déclaration Dominus Iesus sur l'unicité et l'université salvifique de Jésus-Christ et de l'Église. C'est une déclaration de la Congrégation de la Doctrine de la Foi, en 2000, qui a l'air de resserrer sur l'Église catholique romaine. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a été reçue dans les autres églises chrétiennes. Un autre texte, Ambigatorum Coitibus, je ne me rappelle plus son statut exact, qui a proposé aux Anglicans qui n'étaient pas contents de leur rupture de revenir dans l'Église catholique et qui a été vraiment perçu par l'Église anglicane qui fait beaucoup d'efforts pour préserver son unité comme
une provocation.
Oui. Même si le brave Benoît XVI n'avait pas ça en tête. C'est simplement qu'en fait, il propose aux Anglicans de revenir dans l'Église catholique en gardant leur ministère, leur rite, etc. Qu'il suffit que si une paroisse anglicane décidait de devenir catholique, elle ne devienne plus plein droit sans rien changer de sa discipline.
Même si elle est la cause principale qui provoquait cette différence.
C'est très difficile de savoir pourquoi il y avait des Anglicans qui se séparaient, mais la question de l'ordination des femmes à l'épiscopat, la question de la reconnaissance ou non du mariage homosexuel était au cœur des discussions entre les parties de l'Église anglicane plus rigide sur ces questions-là, en particulier celle du Nigeria, qui est la plus grosse en nombre de croyants, et l'Église anglicane occidentale. Les anglicans non-occidentaux disaient que c'était des questions d'occidentaux et que les non-occidentaux ne pouvaient pas admettre ce genre d'ordonner des femmes ou de voir du mariage homosexuel. Et que donc c'était une forme de colonisation, vous voyez. Mais ça, c'est ce qui est paru dans les médias. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il faudrait être au cœur pour le savoir. Bon, alors je voudrais terminer avec ce que François a dit en communion avec le président Yunnan de la Fédération luthérienne mondiale dans le cadre du 500e anniversaire de la Réforme. Nous sommes profondément reconnaissants pour les dons spirituels et théologiques reçus à travers la Réforme. il n'a pas forcément été toujours bien accueilli parmi les chrétiens catholiques les plus traditionnels. Donc, vous voyez qu'au sein de l'Église catholique, quand on marche vers l'autre, on a toujours inévitablement ce risque de rupture au sein de notre Église. Et quand Benoît XVI, parce que, excusez-moi, ici, c'est le pape Benoît XVI qui signe, ici, c'est le cardinal Ratzinger, hein, quand il a cette méfiance, en fait, il n'a qu'une seule obsession, c'est empêcher que la séparation de Lefebvre tourne au schisme. Il se dit que finalement, perdre 50 ans sur l'avancée œcuménique, c'est peut-être moins grave que d'avoir un nouveau schisme. Il calcule toujours ce brave Ratzinger. Hein. Voilà. On s'arrête là ? 5 minutes ?
Oui. C'est moins grave. Oui.